Nous méditons aujourd'hui le quatrième mystère glorieux, c'est-à-dire, comme vous le savez, le mystère que nous fêtons chaque année le 15 août, c'est que la France a choisi comme patronage. Nous sommes sur une terre dont le patronage, c'est l'Assomption de la Vierge. C'est la Vierge d'Assomption qui est le nid de la France, la matrice de la sainteté. Et donc, nous méditons ici ce mystère qui est le 19e. Le 19e, puisque 19e, nous saluons au passage ce que ce nombre signifie, quoi. Ce nombre signifie en Dieu. C'est le 8e chiffre premier, hein, le 19, le nombre 19. Et le 8, en hébreu, correspond à la lettre Ret, et la lettre Ret désigne le Messie. Et donc, quand, en théologie, on dit, dans la Bible, on dit... 8e chiffre premier, 8 ça dessine le Messie, et chiffre premier ça veut dire d'origine, un phénomène d'origine purement divin. C'est le Messie, mais d'origine purement divine. 8e chiffre premier, 19, il y a une onction, mais il y a quelque chose d'origine purement divine. 19e, l'Assomption, ça vient de Dieu. Et il est belle la parole qu'on lit quelquefois dans l'Évangile. Ne soyez pas bouleversés. Je viens vous préparer une place. Et quand ce sera votre heure, une fois que je vous aurai préparé une place, je viendrai vous chercher auprès de moi. Non, mettez-vous là, il n'y a pas de problème. Ah oui, il n'y a pas de problème. C'est sûr qu'il n'y a pas de micro ici. Il n'y a pas de micro, ça c'est sûr. Après, quand vous écouterez, là, on entend très bien, mais directement, c'est vrai, on n'entend pas. Voilà, donc mystère vraiment de l'Assomption. L'Assomption, on va essayer de rentrer dans ce mystère en demandant toujours, bien sûr, au Saint-Esprit, hein, de nous porter par la puissante intercession du cœur douloureux immaculé de Marie, que le Saint-Esprit vienne nous éclairer, nous prendre de l'intérieur pour nous faire rentrer. Les mystères du rosaire, il faut vraiment rentrer à l'intérieur de ces mystères. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il faut méditer comme ça les mystères de l'extérieur. Dans des considérations théologiques, je ne crois pas. Le mystère est quelque chose de vivant. Le rosaire, c'est vivant. Donc, ça ne peut être que contemplatif. Et c'est pour ça ce qu'on dit toujours, que le rosaire doit toujours être une vie contemplative. On doit contempler le mystère. Et pour contempler le mystère, il faut véritablement qu'il y ait... une Pentecôte, justement. Il faut qu'il y ait une Pentecôte, il faut qu'il y ait une langue de feu qui rentre en nous dans la mesure où on est assoiffé. Complètement assoiffé. Alors ces torrents de lumière flamboyante de la Pentecôte nous pénètrent ensemble dans l'unanimité et le rosaire, à ce moment-là, devient vivant. C'est ce que nous essayons de faire. Il faut, à ce moment-là, on va contempler ce que l'Esprit Saint a à nous enseigner sur ce qui se vit à l'intérieur de Marie, à l'intérieur du corps mystique vivant et de Jésus vivant, dans le mystère en question, puisque nous faisons partie de ce corps mystique vivant. Nous sommes les membres vivants du corps de Jésus vivant. Alors voilà, donc il faut. Donc on est, nous avons été choisis pour vivre de ces mystères du rosaire. Pour notre culture générale, vous savez, voilà un mystère qui pour la première fois ne se trouve pas inscrit dans l'écriture. Les les deux derniers mystères du rosaire ne sont pas marqués dans la Bible. La résurrection de Jésus, oui, mais la Pentecôte, tout ce que vous voulez, mais l'Assomption, non. C'est pas dans l'Écriture, c'est un mystère qui appartient à la foi de l'Église, qui appartient à la tradition de l'Église, à la liturgie de l'Église et à la dogmatique de l'Église, à l'enseignement infaillible de l'Église. Les cinq, vous voyez. C'est seulement en 1950, il y a 52 ans, 53 ans, il y a 53 ans, que le pape Pie XII a proclamé la foi multimillénaire de l'Église sur l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie en faisant une définition expresse de la foi. Et bon, pour ce qui me concerne, moi j'étais avec mon frère jumeau dans le sein de ma mère quand le pape a hurlé cette dogme de l'Église catholique, de l'Église des apôtres. Et c'est donc, oui, j'ai un contemporain. Nous sommes des contemporains, nous sommes les contemporains, mais il ne faut pas dire que c'est seulement depuis 53 ans que, ça y est, mais l'Église a toujours su que Marie avait connu la dormition et l'Assomption. Toujours, ça a toujours été chanté, vénéré, proclamé, admiré. Avec bien sûr des points d'interrogation disant qu'est-ce qui s'est donc passé, qu'est-ce que cela, quelle est celle-ci qui monte du désert tout environnée de nuées, de flammes, hein? On a des, mais c'est curieux que, et c'est ce qu'on va essayer de comprendre peut-être, pourquoi est-ce que ce sont des choses, ce sont des qui ne se dévoilent quant à la vie intime, intérieur, surnaturel, incarné, que vers la fin. Bon, la deuxième chose qu'il faut repérer, je crois, sur le plan de notre foi, enfin de ce à quoi nous devons croire, c'est que dans le mystère de l'Assomption, ce que nous fêtons le 15 août à l'Assomption, en fait, nous fêtons plusieurs choses. Il y a dans l'Assomption beaucoup de choses qui sont présentes. Énormément de choses qui sont présentes. Depuis la Pentecôte, l'Immaculée a été revêtue d'un caractère très particulier, puisque tout ce que l'Immaculée Conception est en puissance, le Saint-Esprit vient l'actuer. Elle est donc transformée en sacrement du Saint-Esprit depuis la Pentecôte. Et donc, il y a à cause de ça, d'ailleurs, simultanément, par une loi divine d'équilibre de l'amour, de la lumière, de la grâce, de la vie et de la vie et de l'éternité glorieuse de Jésus avec qui elle est liée. C'est en raison de ça que, après la Pentecôte, que les torrents des signes et des caractères, des sacrements vont être par ailleurs communiqués au monde par les apôtres. Le baptême va commencer. Le sacerdoce va être communiqué. L'imposition des mains. Et les sacrements vont commencer à surgir, à se manifester à profusion, immédiatement, par milliers, par dizaines de milliers. Immédiatement. Ce sont les petites flammèches qui sortent du feu, du caractère qui s'est imprimé au jour de la Pentecôte en Marie et qui a fait d'elle un sacrement, le sacrement du Saint-Esprit. Donc il y a cet aspect-là dans l'Assomption, ce qui s'est passé depuis cette naissance de l'Église jusqu'à la naissance de Marie au ciel. Il y a deux nativités qui sont liées l'une à l'autre. Donc il y a eu 20 ans qui se sont passés comme ça. Et ces 20 ans, c'est déjà l'Assomption. C'est l'Esprit Saint qui assume toute la liberté de l'Immaculée Conception, qui l'assume pour s'en servir. avons besoin de temps en temps de comprendre qu'il faut que, grâce à nos souffrances, grâce à nos blessures, grâce à nos désirs, grâce à nos limites, grâce à nos pauvretés, l'Esprit Saint peut se servir de nous. À condition, bien sûr, qu'on le laisse faire et qu'on le laisse assumer la croix toute divine de nos pauvretés humaines. Et ça, il y a une grande leçon dans le mystère de l'Assomption de ce point de vue-là. Très grande leçon sur le rôle du Saint-Esprit dans le caractère de l'Église. Le deuxième point qu'il faut se rappeler, qu'il faut méditer, qu'il faut regarder, qu'il faut vivre, c'est bien sûr comment Marie a vécu ça dans le concret. Bon, mais ça, peut-être on pourra, le Seigneur nous aidera. Mais la deuxième chose, donc, c'est que Pourquoi est-ce que Marie est restée? Pourquoi est-ce que Marie est restée si longtemps? C'est parce que, à partir de la Pentecôte, une deuxième torrent de grâce et d'ouverture du ciel a été déversé sur le monde, sur la création, sur le corps mystique vivant de Jésus vivant et sur la plaie vivante et glorieuse de Jésus dans le cœur de Marie, assumée par l'Esprit Saint. C'est l'amour. C'est ce que nous avons vu la dernière fois. C'est l'amour. Et cet amour est un amour qui est à la fois sensible, qui passe par des êtres limités et en même temps qui est illimité. En intensité, en largeur, en profondeur, oui. Et en universalité, en fécondité. Alors, cet amour ne se doit pas, et justement, il y a un mystère de l'amour, il y a un mystère de l'amour éternel de Dieu, qui doit, à travers le mystère de l'Assomption, à travers le mystère de cette tension, cette course de la Pentecôte, de l'amour vers l'Assomption, nous faire comprendre que l'amour ne doit jamais cesser d'augmenter. Et il fallait que l'amour augmente. Si grand qu'il soit déjà, puisqu'il était déjà sans limite. Mais néanmoins, il fallait que la charité surnaturelle qui était dans le cœur de Marie brûlée par l'Esprit Saint, en union avec toutes les torrents d'amour glorieux qu'il y a dans les sacrements que les apôtres sont en train de communiquer au monde de ces heures-là jusqu'à la fin du monde, il fallait que cet amour de charité-là, qui était en Marie, devienne en affinité, passe à un degré d'affinité avec l'amour lui-même. Parce que la charité, c'est une vertu surnaturelle, théologale. C'est nous qui aimons. C'est notre cœur qui, tout brûlé, tout transformé, tout accueillant de l'amour surnaturel, presque sans limite du cœur ressuscité de Jésus, aime le prochain. Ça, c'est la charité, ça. C'est nous qui faisons des actes de charité, vous voyez. On fait des actes de charité parce qu'on met en commun tout l'amour qui va se répandre dans le cœur de notre prochain, et tout l'amour que Jésus ressuscité vit au ciel, et tout l'amour qu'il répand en ce moment dans le nôtre. Et c'est cette mise en commun des trois qui fait l'acte de charité. Il a fallu donc que Marie ne cesse de, dans son pèlerinage, et nous aussi, finalement, les chrétiens, quoi, tous ceux qui sont appelés à être assumés, emportés dans la demeure de Dieu le Père, pour la vision béatifique, pour la Jérusalem glorieuse, on est tous appelés à faire en sorte que cet amour ne cesse d'augmenter, ne cesse d'augmenter, ne cesse d'augmenter, notre charité. Pourquoi? Parce que Jésus, lui, il est, vous comprenez qu'il est monté de la résurrection, il est monté dans l'ascension immédiatement. Pourquoi? Parce que l'amour à l'intérieur de Jésus, il est infini, il est substantiel, il est parfait, il est glorieux dès le départ. dans le cœur de Jésus, il n'y a pas eu d'augmentation d'amour. L'amour qu'il y a dans le cœur tout ressuscité de Jésus est aussi intense que quand il était en embryon dans le sein de Marie. Aussi intense que quand il était sur la croix. Il n'y a pas eu d'augmentation d'amour dans l'affection, la dilection qu'il a eu pour chacun d'entre nous à tous les instants de sa vie. Et comme actuellement, dans la gloire, il n'y a pas plus d'amour dans le cœur de Jésus que dans le premier instant de son incarnation. Pourquoi ? Parce que les profondeurs de son cœur humain, incarné, sont plongées substantiellement dans l'amour. Et c'est cet amour qui fait la charité du Christ. Cet amour qui est l'Esprit Saint. Tandis qu'en Marie, elle n'est pas Dieu. Marie n'est pas Dieu. Donc c'est bien quand les apôtres non plus. Nous, on n'est pas Dieu. Nous sommes de pauvres gens. Quoi. Alors on court derrière le bon Dieu autant qu'on peut. Quand Jésus y passe, il marche très très vite parce qu'il y a beaucoup d'amour. Et nous, on court derrière lui le plus vite qu'on peut. On court. Jésus, lui, à un moment, il s'arrête. Il voit qu'on le suit. Il dit, qui cherchez-vous ? Alors, on ne sait pas quoi dire. On ne sait pas très bien qui on cherche. On sait qu'on est attiré. Mais en tout cas, une chose sûre, c'est que Marie, elle, le jour de la Pentecôte, son amour n'est pas l'amour de son cœur, même si son cœur est blessé par la transverbération, tout glorifié par le mystère de l'Ascension et de la Pentecôte, tout assumé par l'Esprit Saint. Il n'a pas encore connu les surgissements suffisants de surabondance, de croissance, d'intensification, d'universalité qui sont dans le cœur de Jésus. Et donc il va falloir que cet amour en elle augmente, jusqu'à ce que le cœur de Marie, le cœur, l'amour de charité surnaturelle de la Vierge, tout transformé par l'Esprit Saint, c'est un miracle incroyable qui s'est produit pendant 20 ans. De saut en saut, d'abîme en abîme, de flamme en flamme, de fournaise en fournaise, de croix en croix, il faut bien le dire aussi, de désir enflammé en désir enflammé, arrive d'acte de foi en acte de foi, se rapproche tellement du degré d'amour flamboyant du cœur sacré de Jésus, qu'elle va atteindre un degré d'affinité avec lui. L'amour de la femme va atteindre à la fin de la vie de Marie un degré d'affinité, de charité surnaturelle, qui aura même intensité que celui du cœur de Jésus. Le vrai bouddhisme, c'est ça. Quand l'homme devient Dieu dans l'amour. Tous les autres mystères, c'est Dieu qui se fait homme. Mais ici, c'est vraiment l'homme, l'humanité, la femme, la créature, qui, du point de vue de l'amour, atteint, pas par elle-même, c'est évident, par une opération du Saint-Esprit, par ce torrent de Pentecôte, par cette attraction ardente de Jésus, et par l'amour de Dieu le Père, dans l'humilité, dans la toute petitesse de Marie, dans la minusculité de Marie. Une attraction, un amour tellement grand que, au bout d'un certain temps, elle s'approche du terme où il ne reste plus que le dernier voile qui la sépare de ce degré d'affinité par lequel elle va vivre l'Assomption. L'homme, le fils de l'homme et la femme vont être assumés dans une unique résurrection, c'est-à-dire dans la victoire d'un feu purifiée de même intensité dans la complémentarité des personnes. Et l'amour de Marie n'est pas du tout le même que celui de Jésus. L'amour de l'homme et l'amour de la femme n'ont pas même signification, n'ont pas même ardeur, n'ont pas même odeur, n'ont pas même fonction, n'ont pas même gloire sponsalement parlant. L'homme et la femme sont dans un amour de complémentarité. Et c'est ça qui fait le mystère de Marie, que c'est un mystère de Marie, parce que, pour le coup, c'est un mystère de Marie, ça tout le monde le comprend. Les autres ont dit, pourquoi c'est un mystère de Marie? Mais là, quand même, bon, là, c'est pas trop difficile de dire, oui, l'Assomption, c'est quand même elle qui est montée dans l'Assomption. Hein, bon. Et c'est un mystère de Marie en ce sens qu'elle a été vraiment la seule, et elle sera à jamais la seule à vivre de cela. Elle atteint le dernier voile qui la sépare, et le dernier acte de foi qu'elle va faire va la faire passer à l'intérieur de cette torpeur, de la vision béatifique. C'est pourquoi ça produit la dormition. Ce dernier voile, le dernier acte de foi permet la dernière augmentation d'amour de son cœur qui la met immédiatement en affinité à Jésus. Et là, son esprit est apte, à travers le degré d'affinité de l'amour, de cette unité d'affinité, de complémentarité, d'amour avec Jésus, à être dans la torpeur de la vision béatifique. C'est la dormition. Voilà la deuxième chose qu'il faut entendre, hein, donc pour le mystère de l'Assomption. Hein. Mais attention, dans le mystère de l'Assomption, il n'y a pas que ça. Dans le mystère de l'Assomption, il y a ce fait que Marie s'est endormie en Dieu par une torpeur qui vient de la charité. Et la charité, vous savez bien ce qu'elle fait. Elle vous absorbe tout dans l'intérieur. Vous voyez, quand vous priez, par exemple, hein, quand vous priez tranquillement, hein, bon, quand vous priez sereinement, quand vous priez, au bout d'un certain temps, vous êtes rassemblé, vous êtes absorbé. Il y a quelque chose à l'intérieur qui vous absorbe, qui vous ramène, qui vous, dans ce qu'il y a de plus petit, plus ramassé en vous. Tout le reste, toutes les opérations de puissance sont immobilisées. Ce n'est pas une explosion, l'oraison. C'est une implosion. Hein. C'est une implosion. Et c'est ce qui s'est passé. Tout est rassemblé dans l'amour, et le cœur est extasié dans le cœur de Jésus, et il le voit lorsqu'il est arrivé au même degré d'affinité d'amour que lui. Il n'y a que Marie qui a vécu ça. Il n'y a que Marie qui le vivra. Personne d'autre. C'est la dormition. Alors, les orthodoxes fêtent beaucoup plus la dormition que l'Église d'Orient, que l'Église latine, l'Église d'Occident fête l'Assomption. Donc, troisième volet du mystère, on fête aussi dans ce mystère le fait que Marie non seulement ait connu la dormition, mais aussi l'Assomption. Ah, c'est tout à fait différent. La dormition, c'est pas l'Assomption. C'est pas du tout l'Assomption, la dormition. La dormition, c'est le fait que Marie était emportée, comme dit l'Apocalypse, avec les deux ailes du grand aigle, pour échapper, et dans le désert de Dieu. Et du coup, elle s'endort. Enfin, elle s'endort aux yeux du monde, elle dort. Et elle s'est endormie. Oh, ce sera beau à contempler ça, hein. C'est dommage que nous n'en fassions pas l'expérience, parce que... Mais c'est beau à contempler, il faut le contempler, c'est évident. On est les enfants de Marie, on doit être comme les parcelles de la dormition sur la terre. Elle est le feu de la dormition, et nous, on est comme des étincelles de la dormition, tout autour. ça. Donc, il va falloir contempler le mystère de la dormition. On n'aura peut-être pas le temps. Bon. Mais Marie, donc, alors on va dire. Mais attends, est-ce qu'elle a connu la mort, la Sainte Vierge ou l'Immaculée, là? Est-ce qu'elle a connu la mort ou pas? Elle s'est endormie. Elle est dans un état de torpeur. C'est pas mourir, hein. On n'en parle pas dans l'écriture, on n'en parle pas. Ah oui, dans la tradition, le livre, c'est le Tractatus Virginis du 2e siècle, je crois, de l'an 200 ou quelque chose comme ça, où on voit les apôtres témoigner que, voilà, ça, l'Église, elle a ça comme document. C'est un apocryphe. Pour une fois qu'un apocryphe, il n'y a pas d'hérésie dedans. Je crois que c'est un des très, 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 très rares apocryphes où il n'y a pas d'hérésie dedans. Pour presque tous les apocryphes, il y a une hérésie dedans. Ou deux, ou douze. Mais là, les apôtres témoignent dans cet apocryphe. Apocryphe, ça vient d'un verbe, hein. Apo, crypto, hein. Apo, vous mettez de côté, apo, et crypto, vous le cachez. Vous le cachez parce qu'il ne faut pas le lire. Et vous le mettez de côté parce que ça ne va pas. C'est pour ça, habituellement, apocryphe, c'est presque synonyme d'hérésie. Mais là, cette fois-ci, c'est un apocryphe. Il fallait le mettre de côté parce que les gens ne pouvaient pas comprendre. On ne peut pas comprendre le mystère de l'Assomption. On ne peut pas comprendre le mystère de la dormition. On n'en fait pas d'expérience. Et les apôtres étaient très conscients de ça. Et Saint Jean aussi. Et Saint-Esprit aussi. On ne peut pas le comprendre. Et donc, si on l'avait donné de suite dans l'écriture, le démon s'en serait servi, quoi. Parce que comme on ne peut pas le comprendre, on aurait transformé ça. Enfin, il y avait un danger, c'est certain. Mais à cause de ça, la sagesse de l'Église a dit, on le comprendra à la fin. Quand l'Église aura parcouru les 20 siècles qui correspondent aux 20 ans du parcours de l'Immaculée, de la Pentecôte jusqu'à la Dormition, peut-être qu'on pourra commencer à ouvrir, à soulever le voile. Soulever le voile de celle qui a passé derrière le voile. Dans la torpeur de la Dormition. Mystérieux, ça. En tout cas, une chose est sûre, c'est que cet apocryphe indique que Marie, elle s'est retrouvée à un moment dans ces derniers jours. L'ange a été envoyé à tous les apôtres. Il y en avait qui étaient en Inde, il y en avait qui étaient en Espagne, il y en avait qui étaient en Éthiopie, il y en avait qui étaient en Égypte, il y en avait qui étaient, vous voyez, il y en a, ils étaient vraiment partout dans le monde. Et ils ont été d'un seul coup happés, mais attirés, quoi. Parce que la dormition de Marie, la charité de Marie, la torpeur de Marie, c'est une oraison de quiétude absolue. Donc, il y a eu un phénomène, et c'est beau ce que dit l'apocryphe de ce point de vue-là, c'est que du coup, ça a attiré les apôtres, d'où qu'ils étaient, où qu'ils étaient, chacun séparément. Pour Thomas, il venait de l'Inde. L'apôtre Thomas était en Inde. D'ailleurs, il paraît qu'il est arrivé en retard, comme d'habitude. Il arrive toujours en retard, Saint Thomas. Bon, enfin, peu importe, il est quand même arrivé. Et les apôtres sont arrivés, et par bilocation pour certains d'entre eux, parce que pour faire un voyage pareil, vous rendez compte, donc, miraculeusement, quel est l'ange qui les a portés, quel est Saint-Christophe qui les a amenés aussi vite, j'en sais rien. En tout cas, ils étaient là. Ils ont tous été là. Pour aucune de départ des disciples ou des apôtres de Saint-Pierre, pour Saint-Pierre, il aurait pu se faire quand même pour Saint-Pierre, tous les apôtres soient là. Non, non. Pour Marie seulement. L'Église est centrée sur Marie. Ça le montre bien, ça, vous voyez. Là, en tout cas, attraction. Et devant eux, l'Immaculée s'endort dans la torpeur, faisant le dernier acte de foi avec eux, à travers eux, et à travers tous les apôtres de tous les temps. Les apôtres cachés, les apôtres inconnus, tous les hommes, quoi. Parce que tout homme est apôtre. Tout enfant est apôtre. Tout embryon est apôtre. Et elle a fait ses derniers actes de fois qu'il a mis en affinité du point de vue du cœur, surnaturalisé par l'amour, avec le cœur glorifié de Jésus. Ça, c'est étonnant, ça. Devant eux. Et les apôtres donc témoignent que de là, ils ont porté le corps de Marie, estimant qu'il devait être porté dans un tombeau. Et environ vers le... Moi, je dis 36 heures après, n'est-ce pas? Donc 3 jours après, un temps et un demi-temps. Donc il a été porté dans un tombeau. Et Thomas est arrivé, quoi. Hein? Non seulement lui, il n'a pas vu la dormition, mais il a. Mais alors, du coup, on est. Une fois qu'il a fallu. C'est différentes traditions, c'est des petites traditions, j'avoue que c'est pas le mystère. Hein. Mais enfin, néanmoins, c'est amusant, parce qu'il faut quand même de temps en temps. Bon, il y a eu une affinité, c'est pour dire, il y a eu une affinité entre Marie et Jésus. Et Thomas n'était pas là. N'était pas là, qu'est-ce que vous voulez pour Jésus? Donc, alors on met dans l'apocryphe que Thomas n'était pas là pour Marie, quoi. Mais si, il est arrivé quand même à la fin, et puis il y a eu quand même, grâce à Thomas, on a réussi. On a pu voir que grâce à Thomas, que quand même on pouvait plonger notre main dans la plaie du côté de Jésus, et grâce à Thomas, on a pu voir l'Assomption. Alors, oui, il est arrivé en retard, dit-on, et puis voilà, du coup, on va à nouveau dans le tombeau, et à l'instant même où on rentre dans le tombeau, on voit qu'il n'y a plus rien. Alors, on sort du tombeau, et là, ils ont vu le corps de Marie monter au ciel, glorieusement, comme l'Assomption. Tout ça pour dire que la dormition et l'Assomption, ce n'est pas la même chose. Hein? Bon, ce serait beau à mettre en film, mais c'est pour dire, ce serait vrai du point de vue de l'image. Du point de vue de l'image, la dormition, ce n'est pas l'Assomption. Vous savez, et du point de vue de la foi, du point de vue de la doctrine, bon, il y a des disputes. Hein? On ne sait pas tout. On n'en sait strictement rien. Il faut bien le dire, hein, de ce qui s'est passé au moment de l'Assomption. On n'en sait strictement rien. Strictement rien. Alors, il y a beaucoup de supputations, etc. Ce ne sont pas des disputes inutiles, de toute façon. Et en tout cas, ça va jusqu'à dire, attendez, est-ce que la Sainte Vierge a connu la mort ou pas? Est-ce qu'elle est morte ou est-ce qu'elle n'est pas morte? Et du coup, étant morte, est-ce qu'elle est ressuscitée? C'est quoi l'Assomption? Ou alors non, elle n'est pas morte, elle a été dans la torpeur, et de cette torpeur, elle a été emportée et glorifiée au ciel, transformée dans la gloire de la résurrection. Eh ben on ne sait pas. Débrouillez-vous. C'est beau, moi j'aime bien qu'il y ait un mystère où au moins on ne sait pas, quoi. On sera au ciel, de toute façon. Bon, on a quand même quelques idées. Pas dire qu'on n'a pas d'idées. On a des idées sur la question, bien sûr. Ben donc, c'est pas défini ça par l'Église. Si elle a connu la mort ou pas, elle est immaculée dans sa conception. Donc, elle n'était pas, il n'était pas nécessaire qu'elle connaisse la mort. Elle était libérée du devoir de la mort, la séparation de l'âme spirituelle du corps. Oui, donc la dormition, entre la dormition et l'Assomption, il y a la question de la mort. Est-ce que la torpeur de Marie a été telle, l'amour si véhément, la torpeur de la vision béatifique s'inscrivant dans le vol de l'esprit, les deux ailes du grand aigle, telle que ça a arraché son âme de son corps et qu'elle a connu une mort clinique, si vous voulez. Ça n'a aucun intérêt de savoir s'il y a eu une mort clinique, d'ailleurs. Mais qu'il y a vraiment eu un arrachement de son âme hors de son corps, quoi. Mais, et à ce moment-là, ce ne sera pas une mort due au péché, originel, aux séquelles, au mal. Et, parce que la mort est une anomalie, il ne faut jamais oublier ça, que Dieu n'a pas voulu pour l'homme. Conséquence du péché, Marie est immaculée conception, elle est sans péché. Alors, est-ce qu'il y a eu un arrachement de l'âme? Et Jésus était sans péché aussi, il a connu la mort. Alors, pourquoi pas Marie? Vous comprenez? Ah oui, mais la mort de Jésus était une mort qu'il a opérée par sa toute-puissance. Il a arraché son âme hors de son corps par sa toute-puissance. Marie, il n'a pas fait ça, elle s'est endormie. L'Esprit Saint n'a pas arraché l'âme spirituelle de Marie hors de son corps, vous comprenez ? Par une puissance d'amour étonnante. Je ne pense pas. C'est pas dans le style du Saint-Esprit. Je pense pas. Je pense pas. Je pense pas. Tout ça, ça s'est réalisé. Ça s'est réalisé d'une manière extraordinaire. C'est vrai que Jésus. Jésus, ça s'est arraché comme ça dans son amour, parce que son amour pour le Père était si grand, et le Père lui était séparé des hommes, qu'il a fallu qu'il s'arrache par séparation de son corps. Parce que Marie, c'est sûr que c'est l'Esprit Saint qui a ramassé toute sa vie biologique, toute sa vie végétative, toute sa vie sensitive, toute sa vie spirituelle, toute sa vie affective, toute sa vie surnaturelle, toute sa vie glorieuse même quelque part. Il l'a ramassé, il l'a absorbé et il l'a intégré, assumé dans la blessure du cœur glorieux de son cœur immaculé, transverbéré, glorieux comme nous l'avons vu, brûlé par l'Esprit Saint. Et il y a eu d'un seul coup, je pense, une assomption. C'était exactement le contraire. Exactement le contraire de l'arrachement hors du corps. C'était au contraire une espèce de une implosion substantielle, un ramasse, une assomption à l'intérieur de la du vide de la blessure du cœur de Jésus, où l'Esprit Saint l'a entièrement absorbé. Elle est morte comme ça, mais elle était encore dedans. Elle a connu une mort d'amour éternel. Et c'est l'Esprit Saint qui a fait ça. Parce qu'une fois qu'elle a atteint le degré d'affinité, à ce moment-là, le Saint-Esprit a pu assumer l'unité des deux. Ça s'est passé dans la blessure de son cœur transverbéré, brûlé par l'Esprit Saint, réalisant à l'intérieur d'elle l'unité de toutes les Pentecôtes, de tous les temps, de tous les lieux, ainsi que des Pentecôtes qui devaient se réaliser dans la gloire de la résurrection future. Tout ça absorbé dans elle et réalisant cette disparition de la vie humaine, tout en gardant l'âme glorifiée, la personne de Marie, à l'intérieur d'elle. C'est pour ça que pour moi, j'aurais la faiblesse de penser qu'elle n'a pas connu la mort, ou du moins qu'elle l'a connue. Vous avez tous compris. Elle l'a connu dans la mort de Jésus. Parce que c'est un amour de Jésus. Jésus, lui, il est mort. Et la mort a pénétré dans le Verbe éternel de Dieu. La blessure du cœur. Et donc, quand elle était rentrée en affinité avec le cœur de Jésus glorifié, la blessure du cœur avait atteint la personne même du Verbe de Dieu. Il ne faut jamais oublier ça. Et donc, bien sûr que l'Esprit Saint a absorbé l'Immaculée dans la subsistance du Verbe blessé dans le cœur glorifié de Jésus. Elle a connu donc la mort glorifié de Jésus dans sa dormition. Ça, je crois qu'on peut dire ça. Mais elle n'a pas connu la mort du péché. Et c'est pour ça que c'est très mystérieux. Ça, je reconnais, c'est mystérieux. Hein, tu es d'accord que hein, pour piger ça d'un seul coup, hein, ça se fait pas d'un coup. Hein. Ça, c'est la dormition, ça. L'assomption, c'est autre chose. C'est passé. Il y a une suspension qui s'est faite. Tout s'est arrêté. Vous voyez le conte d'Andersen, vous voyez la belle au bas dormant. Comme c'est beau, comme Shem, hein. Shem de mal. Tout s'est endormi. Belle au bois dormant, c'est ça, la dormition. Et c'est resté suspendu. Et puis, le troisième jour, revenu la prendre avec lui. Et là où il est, le Dieu vivant, je suis, elle y est aussi. Jésus est venu. Il y a eu quelque chose qui s'est passé dans l'Assomption de tout à fait particulier. Ce n'est pas la résurrection de Marie. Parce que qui dit résurrection, faudrait dire, il aurait fallu pour ça que Marie fût vraiment morte. La résurrection, c'est à partir de la mort. Alors oui, il y a eu une assomption à partir de la mort dont nous avons parlé de la dormition, mais c'est pas l'assomption, c'est pas une résurrection. C'est une assomption. C'est qu'on est assumé. Ah tiens. Et je disais tout à l'heure que le mystère de la dormition, de l'assomption, et de cette course vers l'assomption, les trois volets au fond, en fait il y a quatre volets, puisqu'on va voir ça tout le quatrième volet tout à l'heure, mais ne sont pas inscrits dans l'écriture. En fait, c'est pas exact. Je pense que vous doutez bien que tous ces mystères-là sont inscrits quand même dans la Sainte Écriture. Je vous signale tout à l'heure, immédiatement, au cas où j'aurai pas le temps de le faire après, mais il faut quand même retenir que si on veut scruter dans l'écriture la dormition, l'assomption, la course de l'assomption, c'est le cantique des cantiques que vous prenez en le conjoignant avec le livre de l'Apocalypse. Si vous conjoignez les deux avec quelques passages de l'épître aux Hébreux, alors à ce moment-là, vous avez pratiquement tout sur le mystère de la dormition, ce mystère de l'assomption. Dans l'Apocalypse, regardez, déjà, non, ne touchez pas à ma bien-aimée, elle s'est endormie à l'ombre du pommier. Ne la réveillez pas avant l'heure de mon bon plaisir. Il faut lire le cantique des cantiques, c'est génial, c'est de la dormition à l'assomption, c'est le cantique des cantiques. C'est très simple. Et cette langueur, et elle s'est nourrie dans cette course de la dormition, elle s'est nourrie de gâteaux de raisin, et c'est l'Eucharistie dans son fruit, quoi. C'est le raisin, le fruit de la vigne et le pain, en une seule nourriture, dans l'unité totale, les gâteaux de raisin dans son fruit. Elle ne vit que du fruit de tous les sacrements, et en particulier du sien. C'est vraiment extraordinaire. À l'ombre de la croix de Jésus, toute glorieuse. Dans la croix ardente du monde qui s'incarne en elle, elle ne vit que de ça, de ce pain chaleureux, de l'Eucharistie, de tous les fruits des sacrements. Et il est dit dans le livre de l'Apocalypse ceci, voici, d'un seul coup, que je crée un monde nouveau. Et voici que je fais un ciel nouveau. Voici que je fais une terre nouvelle. Et Dieu sort parce que de lui-même, si je puis dire, le Christ, et il crée une terre nouvelle à partir de la terre vierge, tout en torpeur dans la vision béatifique en son esprit, ramassé dans la mort d'amour du Saint-Esprit, à l'intérieur de la blessure, dans le Verbe de Dieu, de Marie, à partir de cette terre-là, qui est une virginité presque incréée, quoi. Dieu va se servir de cette terre comme d'une terre glaise à partir de laquelle il va créer une nouvelle créature. Il va créer une nouvelle terre. Comme il avait fait la première fois, il avait pris de la terre rouge. Et cette terre de la matière mêlée de salive et rouge et de sang. Avec quoi ? Cette terre vierge de sang, il avait fait l'homme parfait, Adam. Et là, c'est pareil. Il a pris cette terre vierge de là, qui est déjà parfaite, il faut bien le dire, toute vierge. De la dormition, Marie dans la dormition, il va le prendre de l'intérieur et la modeler de l'intérieur et créer une âme spirituelle créée et une terre créée nouvelle. Ça n'a rien à voir, si vous voulez, si vous voulez mieux comprendre. Vous voyez, entre une boule de terre glaise et une femme dans toute sa splendeur, il y a quand même une sacrée différence. Eh bien, entre la dormition et l'assomption, il y a la même différence. Vous voyez ? Est-ce que vous comprenez ? Qu'il y a eu une activité créatrice de Dieu qui a fait passer Marie de la dormition à l'assomption. Voici, je crée une terre nouvelle, un monde nouveau. Alors, c'est vraiment extraordinaire de voir que Marie, de l'intérieur, son corps, est créé dans l'omniprésence de la résurrection, dans le moule du Verbe glorifié en Jésus, en une seule résurrection. L'unique résurrection devient le moule de l'Immaculée Conception dans son Assomption. Hein, si vous mourrez, que votre corps ressuscite, ce sera un peu de choses près, ce sera le même corps, quoi. Hein, sauf qu'il sera ressuscité, quoi, glorifié. Ben, il sera agile, il sera subtil, il sera lumineux, il sera tout ce que vous voulez. Mais ce sera un peu pas la même chose. C'est la même chose, il aura les qualités des corps glorieux, c'est tout. Tandis que pour Marie, je pense qu'on peut dire qu'il y a une différence. C'est vraiment un monde nouveau. Elle rentre en affinité non seulement avec le cœur, mais avec le corps, la divinité aussi, de toute la résurrection. De la résurrection qui elle-même s'est faite Dieu, le Fils, dans Dieu le Père. Et ça, c'est extraordinaire, de savoir que l'Esprit Saint, à travers la dormition de Marie, a pu participer à cette assomption de manière à connaître dans la résurrection de Marie ce que la résurrection du Fils vit lorsqu'elle se fait Dieu dans le sein du Père. Là, il y a quelque chose d'étonnant parce que les conditions, les assises de la Jérusalem glorieuse sont ainsi établies, créées. Les portes sont créées, les perles sont créées. La Jérusalem glorieuse est créée. Marie est aussi bien l'Église que la Jérusalem spirituelle, que la Jérusalem glorieuse, que la femme de l'Apocalypse, que la reine, etc. Et tout ça, c'est des choses qui sont à chaque fois un petit peu différentes. Si vous dites « Oh Marie, Jérusalem glorieuse de Dieu », tu t'adresses à Marie, c'est l'Immaculée qui est là, tu la vois. « Oh Jérusalem glorieuse de Dieu », c'est la Jérusalem glorieuse de Dieu dans sa chair glorieuse qui apparaît. C'est plus que de la subtilité, vous voyez, c'est plus que de l'agilité, c'est plus que de la clarté. C'est pas plus que de la résurrection, c'est la résurrection à Marie. Mais simplement, Dieu a créé une terre nouvelle, un monde nouveau et un ciel nouveau. Ça, c'est l'Assomption, ça. Vous aviez pas pensé à ça. Hein, vous aviez pas pensé à ça? Non, moi non plus. Alors, créer un ciel nouveau. Et l'Assomption, ce n'est pas la dormition. Vous comprenez? La dormition, c'est un mystère d'amour, quoi. J'ai atteint le même degré de charité incandescente et glorieuse d'amour que celle que Jésus avait sur la terre et qu'il a encore dans la résurrection. Et l'amour n'a cessé d'augmenter à Marie pour que c'est vertigineux, hein, ce qui s'est passé dans la vie de Marie. Et ça, c'est trop beau à contempler, c'est facile à contempler. Quand elle atteint le dernier voile, le dernier acte de foi va la faire rentrer dans cette affinité. Ça, c'est la dormition, torpeur. Le Saint-Esprit, à ce moment-là, absorbe tout en elle. Il a fait vivre de la mort du Verbe de Dieu. Mais c'est la mort glorieuse, et tant qu'elle ne meurt pas, c'est tout, c'est clair, quoi. Moi, pour moi, elle meurt, évidemment. Mais c'est pas un envol de l'esprit, voyez. C'est une l'instase incréée du cœur, ce qui provoque la mort. C'est évident, ça provoque la mort. Mais l'âme est toujours est substantiellement reliée. Elle garde son unité. Hein. La personne de Marie reste là. Donc, sous un certain rapport, la mort, elle n'a pas connu la mort. Sous un autre rapport, elle a parfaitement connu la mort. Ah, c'est sûr. Et donc les apôtres l'amènent dans le tombeau, ça c'est clair. Alors maintenant, après, Jésus vient la prendre, et dans le moule de sa unique résurrection, il lui crée un corps nouveau, une terre nouvelle, il crée la terre nouvelle de la résurrection de la Jérusalem glorieuse, enfin Marie dans l'Assomption, elle est moulée dans le verbe glorieux de la résurrection. C'est un nouveau moule pour l'être humain. De manière que l'être humain soit est sa mère pour tous les instants, pour tous les lieux, pour tous les temps, pour toutes les continuités, pour toutes les éternités. Une seule résurrection pour Jésus, pour Marie. Il y a une seule humanité intégrale, glorieuse et ressuscitée. Il y a une autre chose que la doctrine de l'Église ne dit pas et qu'elle ne sait pas. Et c'est ce grand point d'interrogation qui fait l'objet de nos désirs et de nos curiosités. C'est qu'ils sont trois quand même. Et Joseph, d'après quand même le docteur de l'Église qu'est saint François de Sales, est désigné comme le visage humain et incarné par lequel Jésus a voulu voir, contempler son Père. La première personne de la très sainte Trinité. Et Saint Joseph est déclaré par Saint François de Sales docteur de l'Église, qui est docteur de la charité, justement. Le docteur de la charité. Il déclare ouvertement la pensée profonde de l'Église, c'est que Joseph est aussi, lui aussi, glorifié, ressuscité avec son corps, âme, esprit. Ils sont, d'après ce grand docteur de l'Église, de la charité, ils sont trois à être dans la gloire de la résurrection. C'est un aspect de Mystère de l'Assomption qu'on n'a pas l'habitude de soulever. Hein. Mais nous, on peut se le permettre parce que on aime bien Saint François de Sales. Et on aime bien Marie. Et Marie aime beaucoup Joseph. Et Jésus a un amour dans la gloire avec Joseph qui est dans la vision béatifique qui est total. Donc tout l'amour infini, divin, glorieux de Jésus ressuscité avec Joseph, puisque Marie rentre en affinité avec cet amour, on ne peut pas ne pas comprendre que l'Assomption, c'est réaliser l'installation de la Sainte Famille glorieuse. Et que l'unique résurrection se fait en trois humanités glorifiées. Moi, employé, parce que, comprenez, l'Église, nous sommes, l'Église, elle est infaillible. Elle est infaillible et l'Église n'a pas parlé. L'Église ne sait pas. L'Église pressent. L'Église désire. L'Église attend. L'Église touche quelque chose, mais l'Église ne sait pas très bien quand, comment le Saint-Esprit va lui faire dire ces choses-là, les lui faire découvrir, les lui dévoiler. C'est l'Esprit Saint qui parle dans l'Église, à l'Église. Joseph est ressuscité d'entre les morts, on le devine, sans pouvoir l'affirmer. On ne sait pas s'il est ressuscité en même temps que Jésus, s'il est ressuscité le 40e jour. C'est ce qui explique peut-être le 40e jour de l'ascension. Ou alors est-ce que c'est en même temps que l'Assomption de Marie? Qui peut le dire? Qui peut l'affirmer? Bien malin celui qui peut l'affirmer. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que nous désirons beaucoup reconnaître dans ce 4e volet du mystère de l'Assomption ce fait que nous avons un papa glorifié, une maman glorifiée, et que nous sommes les membres vivants, incarnés de Jésus vivant, glorifié en Jésus glorifié, et qu'ils sont trois. Maintenant, nous en venons à la contemplation du mystère. Je vais peut-être un peu rapidement, parce que sinon ça fait vraiment trop. Quand Marie passait de la dormition à l'Assomption, le 3e jour, que tout a été recréé en elle, qu'est-ce que Jésus glorifié, qu'est-ce que le Père, qu'est-ce que le Saint-Esprit, qu'est-ce que la gloire de la résurrection toute omni, toute puissante créatrice a fait dans sa création nouvelle? Voici que je fais une création nouvelle. Il a pris Marie comme femme. Marie dans la dormition, Marie sur la terre, c'est la Vierge. C'est la mère. C'est la femme. Ici, attention, là, vraiment... Et Jésus a repris la Vierge, la Mère, dans la femme, pour la recréer dans le ciel nouveau et la terre nouvelle de l'Assomption. Et c'est pour ça que là, ici, il y a quelque chose de très, 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 très simple à dire. C'est que Marie, comme le dit l'Église tout le temps, Marie est Vierge. Et mère. Marie, c'est la femme, vierge et mère. Ben, écoutez, normalement, lorsque tu es la mère d'un enfant, tu n'es plus vierge. Et lorsque tu es vierge, tu n'es pas la mère d'un enfant. Marie, c'est sa virginité qui engendre l'humanité incarnée. Elle est enceinte par sa virginité. Elle donne naissance par sa virginité. Et plus une femme va donner naissance, moins elle sera vierge, et plus elle va donner naissance, plus elle va concevoir, plus elle sera vierge. Son corps n'est jamais abîmé. Ni par la conception, ni par la nativité, ni par la mort, ni par la résurrection. C'est quand même incroyable, donc elle est vierge. Donc, la virginité, qu'est-ce que Jésus va faire de la virginité de la femme? Qu'est-ce que Jésus va faire de la maternité de Marie? Eh bien, la virginité de Marie va être entièrement recomposée, remoulée glorieusement dans l'omniprésence de Dieu, dans une gloire de Jérusalem glorieuse, pour qu'elle soit l'épousée parfaite. Et que les noces du nouvel Adam et de la nouvelle Ève, en une seule chair intégrale glorifiée, puissent se réaliser. L'homme, c'est pour ça que dans la tradition naturelle de l'homme, l'homme, Marie, épouse une vierge. Un homme n'épouse pas une mère. Un homme épouse une vierge. Et quand un homme épouse une mère, c'est une anomalie. Très très malheureux d'ailleurs, des ménages qui n'ont pas connu cette joie naturelle des noces. Parce qu'il y a quelque chose de, du coup qui, jusqu'à la mort, ne fonctionnera pas. Du point de vue de l'unité, de nature et de grâce, bien sûr. Ben, il y a bien sûr le pardon, la miséricorde. C'est pour ça que dans le christianisme, puisque d'ailleurs dans toutes les autres religions, tu te maries et tu gardes ta virginité jusqu'au jour du mariage. La virginité, c'est pour le mariage, c'est pour l'unité sponsale, c'est pour l'humanité intégrale de l'unité sponsale. D'accord ? Donc simplement, Jésus a transformé la femme dans sa virginité pour qu'elle ait une virginité divine. C'est la gloire de la résurrection qui a saisi la virginité de Marie pour que cette gloire de la féminité de Marie puisse passer et rentrer dans l'unique gloire de la résurrection, dans l'humanité intégrale du Verbe subsistant et glorieux de Dieu. Hein? Donc ça, je crois que c'est assez facile. Ah, du coup, elle a été l'épousée du Verbe, de Jésus. Et elle a été l'épousée non seulement l'épousée en unité d'humanité intégrale glorifiée de complémentarité. Vous comprenez ? L'homme et la femme sont dans un amour de complémentarité. Mais sur le plan de la chair, sur le plan virginal, sur le plan du sang, sur le plan de la grâce, sur le plan de la gloire, sur le plan de l'éternité. Mais en plus, l'épousée en Marie a été tellement assimilée à la personne de Jésus, tellement assimilée à lui, et que la personne de Jésus, nous le savons, est épousée de Dieu le Père, puisque la deuxième personne de la très sainte Trinité, c'est l'épousée et eux. C'est la féminité en Dieu, c'est la deuxième personne de la très sainte Trinité. Donc à travers cela, la virginité de Marie va aller jusqu'à l'assimilation au Verbe de Dieu et connaître les épousailles avec le Père, qui est l'époux. Donc il y a une double épousaille, et c'est pour ça qu'il y a eu une transformation glorieuse de la virginité de la femme, pour qu'il y ait cette double épousaille. Elle est avec l'épousé, le Verbe de Dieu. L'épousé incarné de Dieu le Père. Et en même temps, elle est l'épousée glorieuse dans l'unique gloire de la résurrection du nouvel Adam de Jésus. Voilà, un premier aspect. De se contempler, ça, parce que Marie est femme dans sa chair glorifiée. Et, Jésus, et le Christ, il est femme dans sa divinité de personne. Je sais pas si vous voyez. Et les deux sont conjoints dans cette sponsalité avec Dieu le Père, qui est l'époux. Vous rappelez ce que dit le pape à propos de la très sainte Trinité. La première personne de la très sainte Trinité joue le rôle de l'époux. La seconde personne de la très sainte Trinité joue le rôle de l'épouse. À l'Assomption, la virginité de Marie est recréée dans la chair de manière telle qu'il puisse y avoir cette sponsalité double, simultanée, à la fois incréée et créée, voyez, en elle. Donc incréée, glorieuse et créée. Les trois. Bon, qu'est-ce que Jésus a fait de la maternité de Marie? Marie, c'est une femme mère. Ça veut dire qu'elle est féconde. Elle produit. Elle produit. Elle a produit par l'opération du Saint-Esprit, par une supervenue du Saint-Esprit, par la toute-puissance de Dieu, dans sa chair, dans sa féminité, elle a produit le corps de Jésus. Elle a produit le corps de l'homme. Elle a produit, elle a engendré l'homme, Dieu, et Dieu dans l'homme, et l'homme en Dieu. Elle a engendré, elle a été mère, elle a donné naissance, elle l'a conçu, elle l'a fait croître. Elle l'a fait pour lui, elle l'a fait pour les membres vivants du corps mystique vivant de Jésus vivant, pour nous aussi, sous un certain rapport, même sur le plan corporel. droite et physique. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra jamais oublier. Et c'est peut-être un deuxième volet de cette contemplation, c'est de regarder qu'est-ce qu'est devenue cette maternité de Marie. Marie est devenue mère du corps mystique de l'Église par la substance et le fruit des sacrements. Et là, cette transformation s'est réalisée. Ça veut dire que elle va continuer à être féconde. Elle va continuer à donner vie. Elle va continuer à donner la vie. Elle va continuer à être mère au ciel. Mais elle ne sera pas mère, parce que pour être mère, il faut concevoir quelque chose de nouveau. Et puis, il faut donner naissance à quelque chose de nouveau. Ça, je pense que ça ne se produit pas au ciel. Au ciel, on est dans l'éternité de la gloire. Et donc, c'est une communication continuelle de l'instant éternel de Dieu. Donc, il n'y a plus de dunamis, voyez, à l'intérieur de la gloire éternelle de Dieu. Mais il y a quand même une communication continuelle d'amour, de gloire incarnée, de résurrection. Mais alors, elle va donc produire de la résurrection. C'est ça qui est complètement dingue. Elle est mère, elle est et la maternité, mais elle sera pas mère, parce que quand tu produis de la résurrection, quand tu engendres des corps ressuscités quelque part, enfin bon, tu ne produis pas des enfants, enfin. Et donc, on va dire, la maternité, elle sera plus déclarée mère, elle sera déclarée reine. C'est ça que ça veut dire. Elle a une fécondité qui continue. Sa fécondité est transformée. Et elle va être le moule de la résurrection. C'est pour ça que je disais qu'elle va être réalisée Jérusalem glorieuse. De ce point de vue-là, Saint Maximilien Marie Kolbe dira, je pense et j'espère qu'un jour il sera déclaré docteur de l'Église, parce que c'est le docteur vraiment de l'Immaculée Conception, lui, celui qui meurt à Auschwitz. Il dit, c'est très simple. Ce que l'Immaculée Conception, même glorifiée au ciel, est en puissance, l'Esprit Saint l'est en acte. L'Esprit Saint, c'est l'acte, c'est-à-dire la perfection actuée de l'Immaculée Conception glorifiée. C'est comme ça que s'est réalisée la transformation de la maternité de Marie dans la femme glorieuse, dans une femme féconde. Et elle ne cesse de féconder la Jérusalem glorieuse. La fameuse Jérusalem glorieuse, c'est-à-dire la communication glorieuse, cette continuité. La continuité, si vous voulez, c'est par rapport à nous. Dieu n'a pas besoin de continuité, il est dans l'éternité. Mais au ciel, dans la Jérusalem, on aura besoin de cette continuité. Et cette continuité est engendrée par Marie, femme, Jérusalem glorieuse. Son corps maternel fécond est recréé dans une fécondité qui est glorieuse. Et contempler cette fécondité, c'est aller regarder cette fois-ci du côté, non pas de l'épousée, mais du côté du Saint-Esprit, du côté de l'acte et de la puissance. Marie n'a jamais rien voulu faire par elle-même, jamais, à aucun moment, sur la terre. Et au ciel, c'est pareil, c'est l'Esprit-Saint qui l'actue. Ce que l'Immaculée Conception est en puissance, l'Esprit Saint l'actue. C'est son acte. C'est pour ça, hein, qu'il faut comprendre ce que c'est que le mystère de l'Immaculée Conception. Dans son origine, c'est le cœur de Jésus. L'Esprit Saint est le Verbe secret de l'Immaculée Conception et le dépose par la toute-puissance du Père dans le premier instant de sa vie. Mais cette Immaculée Conception ne cesse de s'exploiter par l'humilité, par la charité, par les vertus héroïques, par la grâce, hein, par la charité, par l'espérance, par le fruit des sacrements, par cette longueur insupportable d'amour, jusqu'à l'Assomption. Et l'Immaculée Conception arrive à son oméga, et son oméga, c'est l'Immaculée Conception dans toute son actuation par l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui sont tentées de dire que Marie est, dans la gloire, l'incarnation du Saint-Esprit. C'est une tentation. C'est une tentation qui montre qu'on n'a pas contemplé, parce qu'il y a toujours Marie. La personne de Marie demeure. Tandis que si l'Esprit Saint s'était incarné dans Marie, enfin que Marie glorifiée était l'incarnation du Saint-Esprit, mais ça voudrait dire que la personne de Marie aurait été anéantie, il n'y aurait plus de personne en Marie, et ce serait la personne du Saint-Esprit qui se manifesterait dans l'extériorité mariale. Mais la personne de Marie aurait été anéantie. Donc, elle aurait été la seule chrétienne à connaître la mort éternelle. On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. Il y a deux personnes. Mais la personne de Marie, c'est cette gloire extraordinaire, vraiment, cette victoire de l'amour dans la résurrection de la femme et de toutes les fécondités de Dieu et de l'homme en une seule chair glorifiée. C'est elle. C'est cette maternité, cette fécondité. Elle produit, Saint-Esprit du, à travers elle va pouvoir féconder la continuité de la gloire. Qui fait précisément toute la gloire de la Jérusalem glorieuse. Ça, c'est très beau, ça, voyez, comprendre qu'elle est vierge, elle est mère. Ah, elle est épousée, elle est reine, elle est production de gloire. Et c'est l'Esprit Saint qui fait ça, l'Esprit Saint, du coup, effectivement, est tout à fait lui-même dans l'Immaculée Conception épanouie, dans cette gloire de communication. Et le visage de l'Esprit Saint, ce n'est plus la nuée, c'est Marie glorifiée. C'est pour ça que Saint Maximien Kolb dit, si vous ne comprenez pas ce que c'est que l'acte de la puissance infinie et glorieuse de l'Immaculée Conception, alors dites simplement que Marie est la quasi-incarnation du Saint-Esprit. Quasi. Mais même ça, ça va pas. Quoi si ? Non, non, non. Alors, si bien que quand tu regardes Jésus, c'est vraiment l'épouser, c'est le Verbe de Dieu. Et tout fondu dans le Père, et du coup, il n'y a plus que le Saint-Esprit qui se voit dans Jésus glorifié, Saint-Esprit tout flamboyant. Donc on avait perçu les premiers symptômes à la Pentecôte. Se trouve tout manifesté dans la gloire de Marie. Il n'y a qu'une seule résurrection. Il y a ces deux aspects. Alors, une des belles manières de contempler le mystère, c'est de se dire, comment est-ce que Saint Joseph au ciel vit ça, quoi ? Ça a dû être délicieux pour lui. Pour moi, Saint Joseph, c'est la coupe où s'est réalisé Saint Joseph glorieux, et la coupe où s'est réalisé ce mélange de ces deux visages du mystère de l'Assomption. Et quand on célèbre la messe, la coupe, ainsi que l'explique les midrashes rabbiniques, est liée à la paternité incarnée de Dieu, qui est la coupe où se réalise le dernier mélange, où se mélange le pain et le vin. Et ce serait une très belle chose que demander au Saint-Esprit, ça ne peut pas le produire, vous ne pouvez pas le produire vous-même, vous pouvez toujours courir, mais si Saint-Esprit nous fait dévoiler un peu de temps en temps, comment Saint-Joseph à savourer cet instant éternel, là, vous voyez. Et c'est ça, l'origine de la Sainte Famille Glorieuse. Fruit du mystère, nous appartenons à la Sainte Famille Glorieuse. Et cette demeure, c'est cette Sainte Famille Glorieuse. Notre vraie demeure. Quand on dit « Je fais partie de la Sainte Famille Jésus, Marie, Joseph, le Père, le Fils, le Saint-Esprit », ces six jours de la création qui viennent de Dieu, dans l'Assomption, c'est, il y a six jours, il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit, Saint-Joseph glorifié, Marie glorifié et Jésus glorifié, quoi. C'est facile à comprendre. Bon, et moi, je suis le septième, c'est mon repos. C'est mon repos, c'est quand je dis je vais rentrer dans la Sainte Famille, et ben c'est tout simple, c'est que je rentre, je m'enfonce, et j'ai compris grâce à l'Assomption que c'est pas en courant comme ça, comme une fusée du Saint-Esprit autant que je peux, en essayant de m'imaginer que je rentre je sais pas où. Non, c'est en m'enfonçant dans la Sainte Famille glorieuse. L'Assomption m'a fait comprendre ça grâce à la Dormition. Je vais m'enfoncer par l'oraison. Corporellement, mon corps va se rassembler dans mon corps originel, et mon corps originel s'inscrire dans le livre de vie de la Sainte Famille glorieuse. Je suis inscrit comme membre de cette famille. Je suis un fils adoptif. Marie, ma mère. Joseph, c'est mon papa glorieux. Et Jésus, c'est moi. Je suis un membre identifié. Je fais partie de Jésus. Je fais partie de la Sainte Famille. Je suis son fils, son frère. Frère jumeau, son frère aîné, son frère cadet, tout ce que vous voulez. Sa sœur. Je fais partie de la Sainte Famille. C'est extraordinaire. Et je rentre dans la Jérusalem glorieuse comme ça. Et du coup, il y a une fécondation dès cette terre du corps spirituel venu d'en haut. Qui surgit dans mon corps originel. Je crois que c'est assez facile une fois qu'on a découvert ça. Je crois que c'est peut-être pour ça que il a fallu attendre 1950 ans pour que l'Église dise Assomption. Allez, encore un petit mot là-dessus, va. D'accord. Fruit du mystère. Mise en place du corps spirituel. Hein? Il fallait attendre les 20 siècles, c'est normal. Bon, petite règle pour votre culture générale. Hein. Petite culture générale catho. Bon, chrétienne. C'est pas par hasard qu'il y a eu le concile de Chalcédoine, le concile de Constantinople, le concile d'Éphèse, les différents conciles, tous les conciles œcuméniques de l'Église indivise. Comme disent certains. Pourquoi est-ce que tel dogme a été proclamé définitivement dans l'infaillibilité du Saint-Esprit, absolu, irréfragable, irrécusable, irrémissible, au 3e siècle? Et celui-là, au 7e siècle? Et celui-là, au 20e siècle? Mais tout simplement parce que quand l'Église, Jésus a donné à Marie et à l'Église le pouvoir des clés pour ouvrir, non pas les mystères, mais l'Église reçoit le pouvoir des clés pour ouvrir à tous les mystères de Dieu l'heure, l'instant, à partir duquel il peut réaliser sa fécondité incarnée dans le monde à partir de l'Église. Bon, je vois que vous n'avez rien compris. Prenez par exemple, vous allez mieux comprendre, parce que prenez par exemple, vous avez quelqu'un qui est un grand saint, vraiment un grand saint, hein, d'accord ? Il est au ciel, il est allé au ciel directement. Allez, il n'est pas passé par le purgatoire, il est allé au ciel. Et puis, 600 ans après, l'Église le canonise, seulement 600 ans après. Voilà. Sainte Jeanne d'Arc. Bon, n'importe quoi, Saint-François d'Assise. On va canoniser quelqu'un. On va le déposer sur les autels. Ça veut dire que... ça veut pas dire qu'il n'est saint qu'à partir du moment que l'Église l'a dit. Il est saint depuis le début. Il est dans la vision béatifique depuis le début. Il est au ciel depuis le début. Seulement l'Église, quand elle le canonise, elle dit, à partir de maintenant, vous pouvez puiser sur la terre les... C'est à partir de maintenant qu'il est canonisé que vous pouvez puiser dans votre vie sur la terre les trésors et les mérites de ce saint au ciel, jusque dans l'incarnation de votre vie. Donc les trésors des mérites de ces saints-là, de ce martyr-là, ne peuvent se déverser du ciel dans l'incarnation de notre chair, notre sang et notre vie, qu'à partir du moment où l'Église a ouvert la canonisation. Vous comprenez ? Donc, pour l'Assomption, que Marie ait été connue la Dormition et l'Assomption, bon, je crois que ça ne faisait aucun doute pour personne. Depuis les apôtres. Ça ne fait pas de doute pour personne. Mais l'Église prononce le pape Pie XII, sa grandeur Pie XII, c'est dire le dogme, c'est pas de dire ça, c'est une vérité dogmatique. L'infaillibilité du Saint-Père, c'est pas du tout pour dire bon, allez, à partir de maintenant, je dis que ça, c'est dogmatique. C'est pas ça, l'infaillibilité. L'infaillibilité, c'est de dire, c'est à partir de quelle heure, à partir de quel instant, il doit avoir sa fécondité. C'est l'heure à laquelle je dois le dire. On le croit depuis 20 siècles, mais c'est maintenant qu'on doit en vivre. Et donc je vais le proclamer comme un dogme. Et le proclamer par un dogme, c'est pas d'inventer une nouvelle vérité qui n'existait pas avant. C'est pas du tout ça. Jamais, jamais le pape va inventer une nouvelle vérité. Jamais. Mais par contre, l'infaillibilité joue sur ce fait que c'est l'heure. C'est maintenant. C'est maintenant. Et l'Assomption, pendant 1950 ans, non, et puis, maintenant, 1950, l'Assomption. Et puis, le pape Pie XII après, 1953, je crois, Marie-Reine. Ah, ça c'est extraordinaire, on verra ça, la royauté de Marie. Mais c'est autre chose, c'est encore autre chose. Bon, mais ça veut dire qu'à partir de maintenant, on peut en vivre. Ah, tiens, que Marie, c'est notre mère, glorifiée au ciel, et qu'elle a une fécondité incarnée et glorieuse, dans l'Assomption, et qu'elle a une fécondité glorieuse sur nous, ça ne peut être efficace dans l'histoire de l'Église qu'à partir du moment où l'Église a ouvert de pouvoir, son pouvoir des clés sur ce dogme. Est-ce que vous comprenez? Non, c'est trop compliqué ce que je viens de dire. Je vois que c'est trop compliqué. Bon, je vais dire autrement. Donc, ça veut dire que Marie était dans l'Assomption. Marie était dans l'Assomption. Supposez. Je vais faire un schéma, vraiment un schéma de caricature, parce que nous, on est des petits, on comprend rien. D'accord? Bon. Alors, supposez que Marie, dans l'Assomption, elle a le pouvoir de communiquer des rosées incarnées de grâce, de gloire, et que ça vienne dans nos cellules, et que nos cellules brillent, au moins un petit peu en partie, mais même sensiblement et visiblement, de cette gloire produite par Marie. Ça, c'est un pouvoir qu'elle aurait reçu de l'Assomption, puisqu'elle peut féconder de la gloire dans notre chair. C'est ça ce que je viens d'expliquer sur l'Assomption. Hein. Donc elle a une matrice de gloire. Ben, oui, mais si l'Église bloque et ne proclame pas l'Assomption de Marie par le pouvoir des clés de Pierre, eh ben elle ne peut pas le faire. Sa fécondité n'est pas effective. Le jour où le pape en fait un dogme, cette fécondité est effective en proportion de la foi. En proportion de la foi et de la charité qu'on en a. Hein. C'est toujours en proportion de la foi et de la charité ardente qu'on en a. Hein. Ça veut dire que les fécondités que Marie a corporellement depuis son Assomption ne sont ouvertes par l'Église dans ses écluses efficaces et fécondes que depuis 1950. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'il va falloir qu'on engage le dernier grand combat eschatologique. Hein. Et que si on n'a pas la force venue en haut, jusque dans la chair, hein, jusque dans la matière, le grand combat eschatologique impliquant une lutte définitive où tous les éléments de la création seront impliqués, il faut bien sûr qu'il y ait des éléments de matière et d'amour et de gloire qui nous permettent d'être confrontés à la bête, hein, à l'Antichrist victorieusement. Et donc ça ne pouvait... on le voit bien, hein, on le voit bien. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que pourquoi est-ce que le dogme de l'Assomption donc est proclamé en 1950, hein? Et donc on est la première génération à pouvoir vivre des fécondités incarnées, spirituelles, surnaturelles, de l'Assomption de la Vierge Marie. Et ce n'est pas une petite chose que de comprendre ça. Au fond, c'est le cinquième volet. Comment Joseph, il savoure ça? Quatrième volet. Comment moi, je vais savourer ça pour m'engloutir, m'enfoncer dans la Sainte Famille Glorieuse et voir se féconder en moi, dans mon corps originel, le corps spirituel venu de la Sainte Famille Glorieuse, dès cette terre. Pour que le fait que je sois... un fils de Marie, ce soit vrai aussi bien sur le plan de l'esprit, sur le plan de la grâce, sur le plan de la chair dans mon corps spirituel. Ordinairement, Marie est notre mère parce qu'elle nous donne c'est par elle que passe la grâce. C'est par elle que passe la grâce, c'est pour ça. dit Marie, c'est ma mère. Mais elle va être la mère de mon corps spirituel avec l'Assomption. Elle va être la mère de... Et c'est pour ça que saint Paul dit que c'est le corps spirituel qui ressuscitera. Ce n'est pas le corps psychique. Elle n'est pas la mère de mon corps. Hein. Psychique, elle est la mère de mon corps physique spirituel. Et lui, il vient de la Sainte Famille Glorieuse. Et la virginelle et glorieuse conception de mon corps spirituel, c'est le livre de vie de l'agneau. C'est dans la virginité glorieuse des épousailles que se situe cette conception sur le livre de vie. Glorieux. Vous voyez ? Et ça fait quantité, c'est dans mon corps, c'est dans la Sainte Famille Glorieuse. Et du coup, le corps mystique entier, vivant de Jésus vivant, n'est plus une allégorie. C'est plus simplement un symbole. Avant, on disait, on fait partie du corps mystique du Christ, hein. Nous faisons partie du corps mystique du Christ. Ah ben, c'est symbolique, puisque notre corps n'a rien à voir avec ça. C'est uniquement la grâce. Mais la grâce, c'est pas physique, c'est pas le corps. C'est pas biologique, c'est pas... Il n'y a rien de... D'accord ? Dans la grâce, c'est purement mystique, c'est purement immatériel, quoi. Donc, on fait partie du corps mystique du Christ, on est membre vivant du corps mystique vivant du Christ vivant, par la grâce, et uniquement par la grâce. Donc, c'est symbolique, quand on dit corps mystique, je suis un membre vivant du corps mystique vivant, je suis vivant. C'est symbolique. Et bien, jusqu'à l'Assomption, oui. À partir de l'Assomption, ça ne doit plus être symbolique. Il y a quelque chose qui fait que mon corps est soudé par subsistance surnaturelle, certes, mais qui a sa participation corporelle à la subsistance dans le Verbe, dans l'advenu de cette fécondité de l'Assomption sur l'Église de la fin. C'est une trace hein, que je laisse, hein, c'est sans plus, hein, c'est une trace. Tout simplement. Donc, à partir de là, on va pouvoir courir sur, bien sûr, le cinquième mystère glorieux que nous, avec la grâce de Dieu, nous essaierons de voir la prochaine fois. Oui, donc la disposition, vous l'avez bien compris, hein, c'est la disposition, la disposition à ce, pour contempler ce mystère, c'est l'Esprit Saint. Hein. Il faut que l'Esprit Saint aille jusqu'au bout. De sa toute-puissance de création nouvelle. Et il faut se laisser entièrement actuer par l'Esprit Saint jusque dans la création de notre homme nouveau de résurrection. Et c'est ça qu'il faut laisser l'Esprit Saint faire comme disposition à la contemplation de ce mystère. Et du coup, on fera ce que Marie a vécu et on va pouvoir rentrer dans ce qu'elle a vécu dans la dormition et du coup contempler son Assomption. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.